Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Radio 1, la première FM de Tahiti. Tout de suite, les titres de votre journal présentés par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Benny et bonjour à tous. Réouverture du ciel en kit d'auto-prélèvement pour chaque arrivant au Fénois. Le pays prépare sa candidature pour les Jeux du Pacifique en 2027. Et puis, nouvel épisode dans la saga Joinville-Pomarez contre Thierry Barbian. Et puis également, en fin de journal, nous recevons l'avocate Brigitte Angibaud au sujet des contraventions recueillies pendant le confinement. Vous en serez davantage dans cette édition.
Réouverture du ciel, un kit d'auto-prélèvement pour chaque arrivant au Fénois.
4 millions de masques en arrivage de Chine, 7000 tests PCR, 200 chambres hospitalières avec oxygène pour d'éventuels malades, des chiffres pour convaincre hier à la présidence, où le président du pays, Edouard Fritsch, a assuré encore une fois que le pays était prêt pour l'allègement du protocole sanitaire. La quarantaine obligatoire des voyageurs va disparaître le 15 juillet afin d'encourager une reprise économique et touristique au Fénois. Écoutez-le.
Je disais que c'est ma grande hantise, parce qu'effectivement, au niveau financier, ça va très très vite. En deux mois, c'est 4 milliards de soutien à l'emploi, plus presque 2 milliards pour les aspects sanitaires. Si nous continuons comme ça, je ne sais pas comment faire. Et je ne veux pas non plus, je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas que notre pays aille emprunter des centaines de milliards, je pense à la génération d'après. On ne va pas que rembourser les emprunts dus au Covid. Il faut à un moment donné prendre le risque, bien peser, continuer à protéger, mais prendre le risque de relancer, car nous avons besoin de cela.
Les autorités sanitaires ont expliqué que les passagers subiraient un deuxième test 4 jours après leur arrivée. Ce deuxième test se présentera sous la forme d'un kit d'auto-prélèvement. Écoutez Hervé Varré, le directeur de l'Institut Malardé.
Voilà, toutes les personnes qui débarqueront donc en Polynésie à compter du 15 juillet devront remettre un kit d'auto-prélèvement. C'est obligatoire, hein, il n'y a pas d'invitation, il est obligatoirement, donc il devra faire son test J+4, donc 4 jours après son arrivée, et ensuite il le remettra à la réception d'hôtel, dans un centre de santé, donc tout lui est indiqué pour qu'il le fasse. On s'est organisé en conséquence pour pouvoir effectivement réaliser l'ensemble de ces tests. On n'a pas de tension sur les produits aujourd'hui, là on est en train de recommander tout ce qu'il faut pour faire, on a déjà préparé 2 ou 3 1000 kits qui sont prêts, donc on a déjà pris au moins une grosse semaine d'avance pour la distribution.
Néanmoins, le haut commissaire Dominique Saurin regrette un relâchement de la population sur la protection sanitaire, comme le président du pays Edouard Fritsch qui insiste sur la nécessité de reprendre les bonnes habitudes.
Effectivement, à partir du 15 juillet, même si nous ne recevons en Polynésie que des personnes saines qui seront Covid moins, qui seront négatifs au test, il faut toujours être plus vigilant que jamais, car on ne connaît pas la Covid, on ne sait pas comment elle réagit, donc il faut rester vigilant. Et nous sommes aujourd'hui organisés pour le cas où un cas se présentait, eh ben nous saurons quoi faire. Donc j'ai envie de dire que il nous faut maintenant apprendre à vivre avec ce virus.
Des propos recueillis par Charlie René.
Le gouvernement va de faire le point sur la relance par la commande politique.
Edouard Fritsch, entouré de son gouvernement et en présence de plusieurs chefs d'entreprise du BTP, a présenté ce matin le volet d'investissement public de son plan de relance. Le gouvernement s'engage à mobiliser toutes les ressources d'investissement. Nous nous organisons pour y parvenir, a déclaré le président du pays. Son objectif est de liquider 30 milliards de crédits de paiement avant la fin de l'année et aussi de lancer pour 25 milliards d'appels d'offres à réaliser en 2021.
Le sujet aujourd'hui, c'est de redonner du moral aux entreprises. Je veux que la population, comme les acteurs économiques de ce pays, croient comme moi que la Polynésie peut s'en sortir. Vraisemblablement avec quelques plumes en moins. C'est une réalité.
Nous ne sommes pas gênés aujourd'hui en matière de financement pour les opérations d'investissement qui nous attendent.
Une commission interministérielle de relance est créée ainsi qu'un comité de pilotage des investissements publics. Le plan de relance complet, lui, est annoncé pour le mois d'août, ainsi qu'un collectif budgétaire qui sera soumis à l'Assemblée en session extraordinaire.
Le pays prépare sa candidature pour les Jeux du Pacifique 2027.
Une délégation de la jeunesse et des sports a été inspectée ce matin. Plusieurs sites qui seront potentiellement retenus pour la compétition. Le dossier de candidature serait presque prêt. Il prévoit quelques nouveaux équipements, un centre aquatique à Papeete notamment, mais surtout des rénovations de salles et sites existants. Pas encore de chiffres sur l'investissement, mais la ministre des Sports, Christelle Huartel, assure que l'organisation des Jeux ne peut être que bénéfique pour le Fénois.
Mais c'est important parce que que d'abord, on se porte candidat pour recevoir ces Jeux. Ça faisait des années qu'on n'avait pas organisé les Jeux du Pacifique ici en Polynésie française. Et puis pour le rayonnement dans le Pacifique, c'est merveilleux pour nous. Bien sûr qu'il y a un investissement important à faire. Ce sont des vieilles structures, que ça soit sanitaire ou sportive, il y a des choses à remettre au nord. On fait ces rénovations, bien sûr, pour accueillir les Jeux, mais surtout pour préparer nos athlètes, parce que cette fois-ci, on rigole plus. Hein. Il suffit pas seulement de participer, mais il faut nous ramener des médailles.
Rappelons que la Polynésie française n'a plus accueilli les Jeux du Pacifique depuis 1995. D'autres pays, notamment Fidji ou encore le Vanuatu, sont eux aussi candidats pour l'édition 2027.
Et puis un nouvel épisode de la saga Joinville-Pommarais contre Thierry Barbillon.
Énième épisode dans le conflit qui oppose depuis près de 30 ans Joinville-Pommarais et la CSCI Delano de Thierry Barbillon sur la propriété des terrains de mairie. Cette fois-ci, c'est l'installation récente d'une résidence royale sur l'un des terrains des hauteurs de Punaoya qui a relancé les hostilités. Des travaux dont se sont fait l'écho nos confrères de la dépêche de Tahiti mercredi dernier. Cet éternel affrontement avait mis encore en pause en janvier dernier quand la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel de papeterie de 2016 qui ne donnait la propriété du lotissement Mairie, ni à Joinville-Pommarais ni à la CSCI Delano. Le conseil de Joinville-Pommarais, maître James Lowe, avait alors fait lancer une action devant la cour d'appel pour de nouveau déclarer la propriété en faveur de son client. Aujourd'hui, la CSCI Delano demande donc au juge des référés d'expulser Joinville-Pommarais du terrain qu'il occupe. Mais pour maître Lowe, conseil de ce dernier, le juge des référés n'est pas compétent. Écoutez.
Le juge des référés doit, avant de trancher sur les demandes présentées par les sociétés de l'anneau, doit d'abord s'interroger sur la question de la propriété. On ne peut pas aujourd'hui demander l'expulsion de M. Pommarais sans d'abord justifier qu'on est bien propriétaire légitime. Ce n'est pas possible. Je rappelle simplement que toutes les décisions rendues jusqu'à présent considèrent que les sociétés de l'anneau n'ont pas de titre de propriété et n'ont même pas prescrit. C'est quand même grave. Et ils se permettent de vendre en sachant qu'ils n'ont pas de titre et qu'ils ne sont pas propriétaires.
Du côté du conseil de la CCI de l'anneau, maître Marie-Eftimi Spitz, il n'y a pas de débat. La décision de la Cour de cassation renvoie donc à l'arrêt de la Cour d'appel de 4 de 1995 qui octroie la propriété de Miari à la CCI.
La plus haute juridiction française a dit qu'il fallait revenir à l'état antérieur des choses, c'est-à-dire au jugement de 1995 qui déclare propriétaire par titre les auteurs de ces sociétés de l'anneau. Elle a dit aussi que depuis 1975, Léo de Papéaria qui avait acheté ces terres, ce domaine, ils sont de bonne foi. Elle est de bonne foi, cette société. Donc, depuis 1975, aucun problème, nous dit la Cour de cassation. Maintenant, quand on a du jour au lendemain quelqu'un qui vient s'installer chez vous, construire, mettre un portail et vous dire ben voilà, je suis chez moi, je pense que la République française doit protéger ses décisions de justice, elle doit protéger sa loi et elle doit donner la force à sa loi.
La décision de cet ultime épisode est attendue pour le 21 juillet prochain.
Une étude génétique critiquée sur les liens entre Polynésiens et Sud-Américains.
C'est une étude parue dans la revue Nature et qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Des chercheurs américains disent avoir mis en évidence par la génétique un métissage ancien entre des habitants des Tuamotu notamment ou encore des Marquises avec des Amérindiens de l'actuelle Colombie. Jusque-là, rien de nouveau. Ces échanges antérieurs à l'arrivée des Européens sont établis déjà depuis longtemps. Écoutez Eric Comte, archéologue et ethnologue rattaché à l'UPF.
Dire qu'il y a eu des contacts entre Polynésiens et Américains est absolument banal aujourd'hui. Tous les chercheurs le disent. La chose que l'on pense aujourd'hui, pour différentes raisons, des questions archéologiques, des questions linguistiques, des questions génétiques aussi, et des questions liées aux plantes, etc., c'est que ce sont les Polynésiens qui sont allés en Amérique et qui ont rapporté notamment la patate douce, etc. Il y a des contacts, on le sait, et l'avenir va montrer qu'il y en a eu sans doute de plus en plus de différents lieux.
Là où ça se complique, c'est que l'étude américaine date ces rencontres à 1200 et évoque l'hypothèse d'une navigation des Amérindiens vers la Polynésie. L'idée là n'est pas nouvelle. Le Norvégien Thor Heyerdahl avait voyagé depuis le Pérou vers les Tuamotu en 1947 pour essayer de prouver cette théorie remise au goût du jour dans ce magazine. Seulement aujourd'hui, beaucoup de scientifiques dénoncent les propositions intenables des généticiens américains.
Les chercheurs qui n'ont vraiment pas lu grand-chose en archéologie inversent la proposition. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent que les gens qui viendraient donc de Colombie sont arrivés aux Marquises aux alentours de 1200 après Jésus-Christ. Et eux disent, c'est la période à laquelle les Polynésiens sont arrivés aussi dans le coin. Et donc, quand les Polynésiens sont arrivés, il y avait déjà des Indiens d'Amérique en place. Au-delà du scénario complètement improbable, pour différentes raisons, ils oublient surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien que les Marquisiens étaient déjà là au moins 2 siècles avant la date qu'ils donnent.
Un point positif de l'histoire, le monde s'intéresse à la question du peuplement de la Polynésie. Plusieurs journaux nationaux et internationaux, comme le New York Times, ont fait des articles sur la question ces derniers jours. Vous avez commis une contravention aux mesures de confinement ou de couvre-feu entre le 20 mars et le 27 avril. Si vous faites un don de 5000 francs au moins avant le 31 août à la Croix-Rouge, la contravention sera classée et le juge ne sera pas saisi. C'est le message du procureur de la République, un message que les auditeurs de Radio 1 et TLFM ont pu entendre ce matin. En effet, dans le cadre des mesures de confinement et de couvre-feu prises par le pays pour protéger la population du Covid-19, plus de 7000 contraventions ont été dressées. Je le rappelle, entre le 20 mars et le 27 avril, Brigitte Angibault, bonjour, vous êtes avocate générale et magistrate. Première question, responsabiliser les gens en leur donnant les moyens d'agir pour les plus fragiles. Qui est à l'origine de cette belle et généreuse idée?
Le procureur de la République, c'est lui qui est à l'origine de cette idée. Il a la possibilité de, par la loi, soit de renvoyer directement les gens devant le tribunal de police, devant le juge pénal, soit d'imaginer autre chose, c'est-à-dire un moyen qui permette à la fois aux gens qui ont commis des contraventions d'être sanctionnés, mais également aux Fénois d'en profiter. D'où l'idée de cette réparation.
Avoir la possibilité de transformer des contraventions en dons, est-ce la première fois qu'une telle initiative est prise?
Ce système existe, mais en général, il n'est utilisé qu'à titre individuel. La particularité, l'originalité de ce dispositif, c'est qu'il concerne 7000 personnes qui ont toutes commis le même type d'infraction sur la même période et que la réparation qui a été imaginée est une réparation au service de la communauté via la Croix-Rouge.
Alors là, effectivement, on a eu la période de coronavirus qui est une des conséquences du coup de cette initiative. Mais est-ce que dans d'autres circonstances, vous auriez pu envisager de renouveler cette opération par la suite?
Alors, pour l'heure, non. J'espère que nous ne serons pas très bientôt confrontés de nouveau à une masse de contraventions, notamment dans le cadre d'une deuxième vague ou quelque chose comme ça. Donc, a priori, non, on se concentre sur cette opération-là. Et cette opération-là, elle a pour effet de solder ce qui s'est passé, c'est-à-dire les gestes d'incivilité qui ont pu être posés dans le cadre du Covid. Donc, on la solde. Et on solde cette période-là de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en transformant un geste d'incivilité en geste de réparation, c'est-à-dire en donnant la possibilité à tous les Polynésiens qui ont été verbalisés de pouvoir réparer ce qu'ils ont fait.
Et vous pensez que cette campagne va connaître un joli succès? Vous en pensez quoi?
Je pense que tout d'abord les Polynésiens ont tout à fait intérêt à y souscrire, parce que ce qui est proposé, à savoir une réparation de 5000 francs, est très loin de ce que prévoit la loi, vu que la loi en Polynésie prévoit une amende qui peut aller jusqu'à 90 000 francs. Donc on est très loin de ce que prévoient les textes. Donc ils ont tout intérêt, et ils ont doublement intérêt parce qu'il y a une dimension de solidarité. C'est-à-dire que cet argent n'ira pas au fisc, n'ira pas au trésor public, il ira à la Croix-Rouge, et que la Croix-Rouge transformera ses dons en paniers alimentaires.
Et justement, les paniers alimentaires, ils sont composés de quoi? De quels produits?
De tous les produits qui sont considérés sur le plan alimentaire comme étant de première nécessité, mais pas uniquement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir également des produits d'hygiène, de confort. Voilà, c'est pas uniquement des boîtes de conserve et des aimants de premier degré. Et ces paniers alimentaires sont distincts également d'une famille à l'autre. Ce n'est pas du tout le même panier alimentaire pour une famille avec des enfants très bas âge ou pour une famille avec, par exemple, 4 adultes. En général, ces paniers alimentaires, ils sont sur la base d'une famille de 4. D'accord. Voilà. Et le coût d'un panier alimentaire, ça, il faut quand même le savoir, c'est plus de 16 000 francs.
D'accord, 16 000 francs. Est-ce que vous avez songé éventuellement, pourquoi ne pas étendre cette mesure aux infractions relatives au stationnement non dangereux des véhicules, par exemple? Est-ce que ça pourrait arriver?
Mais vous savez, ce qu'on appelle les mesures alternatives que met le procureur de la République en place, elles sont déjà très très nombreuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que seule la moitié des délits ou contraventions font l'objet en l'état d'un renvoi devant le juge pénal. C'est-à-dire que pour tout le reste, le procureur de la République, il imagine des solutions différentes. Et en matière de circulation routière, qui est le domaine que vous abordez, eh bien, il y a par exemple les stages de prévention routière. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir à payer sa contravention, on peut très bien ne pas avoir de suspension de son permis de conduire si on prend une demi-journée ou une journée et qu'on va suivre un petit rappel en matière de respect des règles de circulation routière.
Du 20 mars au 27 avril, ça représente 39 jours. En 39 jours, plus de 7000 contraventions ont été dressées. Cela représente en moyenne 180 contraventions par jour. Comment vous expliquez ce chiffre ?
Ce qu'il faut savoir, c'est surtout le nombre de contrôles qu'il y a eu. C'est-à-dire que police et gendarmerie ont été sur le terrain pendant toute cette période-là et qu'il y a eu près de 130 000 contrôles. Donc quand on ramène le nombre de contrôles et le nombre de contrevenants, eh bien, on se rend compte que très globalement, la population polynésienne a respecté les règles de confinement et les règles de couvre-feu. Donc là, on a affaire simplement à une toute petite partie de la population polynésienne qui ne les a pas respectées. Et c'est cette partie de la population polynésienne qui maintenant est appelée à faire un geste de don pour éviter des poursuites devant le juge pénal.
Tout à l'heure, avant l'interview, on a notamment évoqué les différents spots. Est-ce que vous pourriez m'en parler davantage, un petit peu plus ?
Les différents spots, s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat que l'on a avec Radio 1 et Thierry FM, qui ont accepté, je dirais même avec enthousiasme, enfin je veux dire l'idée a été tout de suite retenue, eh bien de participer à cette démarche-là d'accepter de diffuser 3 fois par jour sur les antennes jusqu'au 31 août un spot d'une trentaine de secondes qui, en fait, en quelques termes, rappelle l'économie du projet et surtout, qu'il faut aller faire un don à la Croix-Rouge avant le 31 août si l'on veut pouvoir bénéficier de ce dispositif. Passé le 31 août, il sera trop tard.
Avant le 31 août, c'est une très belle conclusion. Je rappelle effectivement, si vous faites un don de 5000 francs au moins avant le 31 août à la Croix-Rouge, la contravention sera classée et le juge ne sera pas saisi. Brigitte Angibault, je vous remercie en tout cas pour cette interview. C'était énormément sympathique de votre part de venir en tout cas.